Comme chaque mois, c'est Michel qui vient de sa Dordogne natale. Donc bonjour, bienvenue Michel.
Bien, bonjour Joël. Alors c'est pas Dordogne natale, hein, je suis en Dordogne que depuis une petite dizaine d'années. En
fait, voilà,
je suis natif de Franche-Comté.
Voilà, mais j'avais.
Je suis du Nord, ou du
voilà.
Nord-Est plus exactement.
Voilà, c'est important de le préciser, mais vous venez néanmoins de cette terre d'adoption, si je puis dire, la Dordogne, d'un des départements voisins. Voilà, chaque mois, alors j'étais pas présent sur la dernière chronique, mais vous allez y revenir dans cette chronique numéro 58. Vous allez faire, bien sûr, quelques petites références à cette nuit des étoiles. Donc avant que vous nous présentiez cette chronique, voilà, comme d'habitude, c'est bien de le rappeler. Donc l'association Constellations et Galaxies que vous représentez. Alors dites-nous un petit peu, dans les grandes lignes, les activités. Et puis on rappellera qu'on peut trouver toutes vos chroniques, parce qu'un immense travail de votre part, Michel. On peut toutes les retrouver sur le site Constellations et Galaxies.
Voilà. Je prends le soin d'avoir un enregistrement de l'émission à chaque fois quand je pars, et je la mets en ligne sur le site web, et il y a une liste de toutes les émissions dans l'ordre chronologique, et surtout en indiquant un petit peu quels sont les thèmes qui avaient été traités dans l'émission, ce qui fait que si des personnes ou des auditeurs veulent entendre certaines chroniques, ils peuvent choisir en fonction de la thématique et ne sont pas obligés de reprendre toutes les chroniques. Alors l'association Constellations et Galaxies, c'est une petite association par nombre de membres. Son activité, c'est la diffusion de la culture scientifique et plus spécialement dans le domaine de l'astronomie. Son activité, son animation principale, c'est le planétarium itinérant, hein, puisqu'ils sont assez rares dans la région, qui couvre d'ailleurs une zone importante. On se déplace grosso modo de Angoulême à Villeneuve-sur-Lot et de la région bordelaise jusqu'à Brive. Donc ça peut venir souvent en période scolaire dans les établissements scolaires, mais ça peut être aussi dans des salles de fêtes pour animer une petite soirée culturelle dans un village. On trouve toutes les informations sur le site web www.constellationsetgalaxies.org. Donc la place qu'il faut pour installer le planétarium, un petit peu le contenu de la séance, qui peut être discuté à chaque fois avec les enseignants, hein, en fonction de projets pédagogiques particuliers, et un petit peu les tarifs, parce que malheureusement, nos subventions ne permettent pas de rendre ça tout complètement gratuit. Et il y a aussi quelques ateliers, je dirais juste un mot d'un atelier qu'on a démarré l'année dernière, qui est un petit peu en dehors du contexte de l'astronomie, qui est un atelier de programmation de robots, basé sur des petits kits de la marque Lego, puisque ça correspondait à un appel à projet de la région l'année dernière sur la robotique et l'intelligence artificielle.
Voilà, toutes les infos, on le rappelle, sur le site donc Constellations et Galaxies. .org. Allez, pour ouvrir votre chronique astro, Michel, d'abord, dans un premier temps, sur l'actu. Alors, petit retour sur ces belles nuits des étoiles 2019.
Voilà. Donc, la dernière fois, effectivement, c'était avec Sandrine. Hein, on avait largement parlé des nuits des étoiles 2019. 29 éditions de cette manifestation nationale organisée chaque été depuis 1991 par l'AFA, l'Association française d'astronomie. Et quelques jours, c'était le 31 juillet, donc quelques jours avant que débutent les animations. Comme chaque année, l'AFA a demandé aux 334 structures organisatrices partout en France une remontée d'informations en ligne sur plus de 540 manifestations proposées au public. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver le nombre global de participants qui n'a peut-être pas encore été publié. En 2018, c'était plus de 140 000 personnes qui avaient participé à ces animations. Et il est probable que c'est encore plus cette année où la météo a été favorable les 3 jours de l'événement, du vendredi 2 au dimanche 4 août. Pour l'anecdote, mon petit club en Dordogne, avec seulement 4 télescopes et 5 animateurs bénévoles, a réussi à faire venir une centaine de participants, dont un quart d'enfants. Plus sérieusement, à proximité de l'agglomération bordelaise, j'ai pu avoir les chiffres d'Astronomie Gironde 33, ou AG33, que nous avions invité à présenter ces animations la dernière fois. Donc c'était environ 1200 personnes à Florac le vendredi avec Cap Science, dans les 700 à Marsas le samedi.
Oui, dans le sud-ouest, on aime bien prononcer voilà. Les S.
J'hésite à chaque fois.
De la fin.
Le samedi et 280 le dimanche, mais là c'était au parc naturel régional de Gascogne à Marquez dans les Landes, jusqu'où le club s'était déplacé pour l'occasion. Corinne, la présidente d'AG33, n'a pas pu me préciser la proportion d'enfants, mais ils étaient très nombreux, m'indique-t-elle. Malgré une météo moins favorable, ils ont aussi joué les prolongations le week-end suivant, avec 300 personnes le vendredi 9 août à Saucats, donc, et 200 le lendemain à Fargue, où les éclaircies étaient trop rares pour profiter des persides qui s'approchaient de leur maximum du 12 juillet. Je profite de l'évocation d'AG33 pour passer un petit salut à Corinne, car malheureusement, elle n'est pas totalement remise de sa mauvaise chute de juillet et on lui souhaite un prompt rétablissement. On voit donc que cette opération Nuit des Étoiles rencontre toujours un grand succès auprès du public et on lui donne rendez-vous en août 2020 pour la 30e édition. Et pour ceux qui ne veulent pas attendre jusqu'aux prochaines Nuits des Étoiles pour s'intéresser au ciel, je leur conseille de se rapprocher d'un club d'astronomie amateur comme AG33, qui sont toujours prêts à les accueillir, ne serait-ce que pour venir observer de temps en temps. On trouve facilement les coordonnées de la plupart de ces clubs, environ 600 sur toute la France, sur le site de l'AFA, www.afastronomie.fr, et pour AG33, c'est tout simplement www.ag33.fr.
Alors toujours sur l'actu, Michel, avez-vous des nouvelles à nous donner de la mission indienne en route vers la Lune ?
Oui, parce que la dernière fois, nous avons parlé aussi de la sonde, alors je garantis pas la prononciation des mots indiens, Chandrayaan 2, lancée le 22 juillet. La semaine dernière, elle a franchi une étape cruciale en réussissant sa mise en orbite autour de la Lune. Nos auditeurs sont peut-être étonnés de son long délai de presque un mois entre le lancement et l'arrivée autour de la Lune, car s'ils ont suivi quelques-uns des documentaires sur le cinquantenaire d'Apollo 11, ils ont pu noter que les missions humaines d'Apollo ne mettaient que 3 jours pour parcourir le trajet Terre-Lune. L'explication est simple. Si on ne dispose pas d'un moteur très puissant pour quitter l'orbite terrestre et s'aiguiller directement vers la Lune, il y a une autre possibilité, déjà exploitée par l'Union soviétique en octobre 1959 pour que la sonde Luna 3 passe derrière la Lune et a pu être ainsi la première à photographier la face cachée de notre satellite. Il suffit d'allonger progressivement une orbite terrestre très elliptique dans une sorte de spirale s'éloignant de plus en plus de la Terre jusqu'à ce que l'apogée, c'est-à-dire le point de l'orbite le plus éloigné de la Terre, finisse par dépasser la Lune. C'est ce qu'a fait Chandrayaan 2 avant d'allumer son moteur pour se freiner, se mettre en orbite lunaire. En début de semaine prochaine, lundi 2 septembre, elle tentera une autre manœuvre délicate en larguant l'atterrisseur Vikram d'environ 1 tonne qui devrait se poser en douceur le dimanche 7 septembre avant d'y libérer le petit rover Pragyan, je suppose, de 25 kg devant évoluer à la surface pendant une journée lunaire, c'est-à-dire 15 jours terrestres. Donc probablement des infos, bonnes ou mauvaises, suivant comment ça se passera, dans les médias ces prochains jours et certainement des nouvelles dans notre chronique de fin septembre.
Alors toujours l'actu et un petit ratage, si on peut dire, de Soyouz.
Oui, en effet, c'est assez surprenant car la répétition des lancements de cette capsule pour expédier et ramener les équipages vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale, nous a habitués à une sorte de routine bien rodée, mais dans l'espace, rien n'est jamais acquis. Pour preuve, la mésaventure de la mission automatique MS-14 qui a raté son amarrage à l'ISS samedi, le 24 août, 2 jours après son lancement, le temps pour lui de rattraper l'ISS sur son orbite. Aucun souci pour les astronautes, car cette capsule est inhabitée. Enfin, pas tout à fait, car le siège central du commandant de vol est occupé par un robot humanoïde russe baptisé F-850 ou Fedor, pour Final Experimental Demonstration Object Research, en bon russe, de 1m82 de haut et pesant dans les 160 kg, afin de tester des modifications importantes apportées au lanceur Soyouz sans mettre en danger les vies humaines. Il peut être télécommandé depuis le sol pour réaliser quelques tâches ou même effectuer une sortie dans l'espace, mais ce n'est pas lui qui pilotait la capsule pour l'amarrage. Celui-ci devant être réalisé en mode automatique, comme c'est habituellement le cas pour les capsules cargo de ravitaillement de la station. Plus tard dans l'année, un autre robot doit aussi rejoindre l'équipage de l'ISS, mais cette fois de construction américaine, et noté Robonaut 2. Pour revenir à l'incident, c'est le verrouillage de Soyouz à l'ISS qui n'a pas fonctionné correctement, et le commandant russe de la mission ISS numéro 60, à bord de la station actuellement, a décidé d'interrompre la tentative. Après un délai de 48 heures pour essayer de résoudre le problème, le Soyouz restant stationnaire à distance de sécurité d'une centaine de mètres de l'ISS, et le déplacement réussi du Soyouz MS-13 pour libérer un autre port d'amarrage, une nouvelle tentative a eu lieu hier, mardi 27, avec succès. Fedor a donc rejoint l'équipage de l'ISS qui doit tester ses capacités à l'assister jusqu'au 7 septembre, où il repartira toujours dans le MS-14. L'équipage de l'ISS est actuellement constitué de 6 astronautes, 2 Russes, dont le commandant, 3 Américains, dont une femme, Kristina record qui devrait atteindre le record de durée pour une femme dans l'espace, soit 328 jours, lorsqu'elle redescendra en février 2020, et un Italien de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, Luca Parmitano.
On peut parcourir l'espace à la voile, Michel.
Alors ça peut paraître bizarre comme idée, mais il faut savoir que des moteurs de propulsion et surtout le carburant nécessaire sont un des points faibles des missions spatiales, car leur masse est très pénalisante lors du lancement et même pour les accélérations sur des trajectoires spatiales, par exemple pour rejoindre les planètes du système solaire. Or, il existe théoriquement la possibilité de procéder autrement, en n'emportant ni moteur ni carburant. Comme le Soleil émet en permanence des particules dans toutes les directions autour de lui, ce qu'on nomme le vent solaire, il serait possible d'utiliser cette pression sur une voile, dite voile solaire, pour obtenir une poussée transmise à un vaisseau amarré à cette voile. D'ailleurs, la lumière émise par le Soleil exerce elle aussi une certaine pression supplémentaire sur la voile. On peut comprendre facilement que ce dispositif pourrait fonctionner pour s'éloigner du Soleil dans le sens du vent solaire, mais avec des manœuvres plus sophistiquées, un peu comme celles des navigateurs à la voile sur la mer qui peuvent évoluer dans toutes les directions, on pourrait aussi se propulser vers une orbite terrestre ou lunaire, par exemple. Certains disent même que cette technique avait été prédite il y a plus de 400 ans par Johannes Kepler, qui a écrit dans une lettre à Galilée « Donnez vaisseau et voile, sachant dompter les vents du paradis, et certains iront braver l'immensité du vide ». C'est un peu exagéré car cette vision, née d'une conception du cosmos très différente de la nôtre aujourd'hui, est assez éloignée des techniques que l'on cherche à mettre au point depuis presque 40 ans. En effet, la NASA et l'ESA avaient déjà envisagé d'utiliser cette solution pour la sonde à destination de la comète de Halley en 1986, mais ce projet avait été abandonné. La sonde européenne Giotto ayant été lancée en 1985 avec un système de propulsion classique. En 2010, le démonstrateur japonais Icaros avait réussi à déployer une voile solaire carrée de 14 mètres de côté, soit environ 200 mètres carrés, et commencer à se propulser très lentement avec ce dispositif pour quitter l'orbite terrestre vers une orbite solaire. Début 2011, c'est un test d'une voile solaire américaine de 100 mètres carrés, baptisée NanoSail D2, qui a été effectué. Il utilisait un format de type CubeSat, un tout petit satellite de 30 cm par 10 par 10, soit environ la taille d'une boîte à chaussures, et de seulement 4 kg. Le satellite a fonctionné comme prévu environ 8 mois avant de se consumer en rentrant dans l'atmosphère. Alors, pourquoi c'est une actualité? C'est que fin juillet, ces tentatives ont connu un nouvel épisode avec la mission LightSail 2 de l'organisation américaine Planetary Society. Lancé fin juin, le petit satellite a déployé avec succès le 27 juillet une voile solaire plutôt modeste de seulement 32 mètres carrés et s'est élevé progressivement depuis environ 720 km d'altitude vers une orbite plus élevée avec la pression obtenue. Cette élévation a pu être vérifiée le 31 juillet, trop tard pour en parler lors de notre dernière chronique, et devrait durer environ un mois. Au fur et à mesure qu'il s'élève, le périgée de son orbite, c'est-à-dire le point le plus proche de la Terre, diminue, et après environ un an en orbite, il devrait rentrer dans l'atmosphère où il se consumera.
Mais à part sur des tout petits satellites, ça sert à quoi, Michel?
Alors, ces tests peuvent paraître assez dérisoires pour le moment, mais il ne faut pas sous-estimer la portée du concept de voile solaire dans le futur. Par exemple, pour régler un problème dont nous avons déjà parlé ici, l'encombrement des orbites terrestres par des débris spatiaux et notamment des vieux satellites hors service. Avec son poids et son encombrement minime, la voile solaire pourrait être un moyen économique de désorbiter ces déchets inutiles, même très lentement, après les avoir capturés avec un satellite de nettoyage. Dans le cadre de la mission Remove Debris de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, un test à petite échelle de capture avec une sorte de filet a déjà été réalisé en septembre 2018, puis un autre avec un dispositif ressemblant à un harpon en janvier de cette année. À noter que dans ce cas, la voile pourrait aussi bien servir à éjecter un satellite loin de la Terre à l'aide du vent solaire, par exemple pour les satellites de la très précieuse orbite géostationnaire qui sont à 36 000 km d'altitude, qu'à tout simplement les freiner par friction sur l'atmosphère terrestre pour les satellites de basse altitude. Ce sera le cas d'ailleurs de Remove Debris lui-même, dont la voile devrait permettre de le désorbiter en 8 semaines seulement contre 2 ans et demi sans ce dispositif. Mais à plus long terme, on peut espérer que la voile solaire soit un moyen d'atteindre de grandes vitesses. Car même si l'accélération est faible, elle est permanente et gratuite, ce qui n'est pas le cas des moteurs classiques qu'on ne peut utiliser que brièvement à cause de la limite du carburant emporté. J'ai lu sur internet qu'avec des voiles de grande surface, par exemple 300 mètres de côté, au niveau de l'orbite terrestre, on peut accélérer 1 kg de 1 mètre par seconde carré, c'est-à-dire que la vitesse augmente de 1 mètre par seconde, ce qui fait à peu près 3,6 km/h chaque seconde. Ce n'est pas l'accélération d'une Ferrari, ni même d'une voiture ordinaire, mais l'important, c'est que c'est continu pendant des heures, des jours ou des semaines. Par exemple, on pourrait essayer d'évaluer ce dispositif pour une sonde comparable à Voyager 1, la plus lointaine envoyée par l'homme à ce jour, car elle se trouve pratiquement à la limite du système solaire, à presque 22 milliards de kilomètres de la Terre. Et il faut savoir qu'il faut 20 heures à la lumière ou aux ondes radio qu'on lui envoie pour l'atteindre, et donc 20 heures ensuite pour qu'on ait sa réponse. Avec une masse d'environ 500 kilos, ce qui est à peu près la taille de Voyager 1 lors de son lancement le 5 septembre 1977, si on enlève le moteur et le carburant, on aura une accélération 500 fois plus faible que pour 1 kilo. Pour atteindre la vitesse actuelle de Voyager 1, soit 17 km/s ou encore 60 000 km/h, j'ai calculé qu'il aurait fallu environ 3 mois de poussée sur une voile solaire de 300 mètres. Ce qui lui aurait permis presque d'atteindre Mars quand elle est au plus près de la Terre, alors que nos sondes actuelles mettent deux fois plus de temps dans les 6 mois. À cette vitesse, on atteindrait Jupiter en 16 mois au lieu des 5 ans environ actuellement, et Saturne en moins de 3 ans au lieu de 7 aujourd'hui.
Alors c'est avec la voile solaire qu'on atteindra les étoiles ?
Alors pas vraiment, car à cette vitesse, Voyager mettrait dans les 70 000 ans à atteindre l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, si elle partait dans sa direction. Alors on peut toujours s'amuser à calculer qu'on pourrait obtenir des vitesses bien plus importantes avec des poussées bien plus longues, sur des années par exemple. Mais il ne faut pas oublier que la poussée du Soleil diminue progressivement quand on s'en éloigne. Même si c'est complètement faux à cause de cette décroissance, le calcul donne que pour une mini-sonde de seulement 1 kilo, la voile de 300 mètres avec la poussée solaire au niveau de la Terre, il faudrait dans les 2 ans pour atteindre 1/5 de la vitesse de la lumière, donc aller jusqu'à Proxima en une vingtaine d'années. Mais certains pensent à un concept dérivé de la voile solaire, une voile plus petite, mais sur laquelle on viendrait pousser, si je peux dire, avec un laser très puissant depuis la Terre. C'est le projet Breakthrough Starshot, dont j'avais parlé en novembre dernier, qui pense ainsi pouvoir envoyer des milliers de microsondes de seulement 4 grammes, autant dire des puces électroniques, à la conquête de Proxima, et surtout pour y explorer une exoplanète baptisée Proxima B, qu'on y a découverte en 2016, et qui semble avoir des caractéristiques de type terrestre et située à la bonne distance de l'étoile pour posséder à sa surface de l'eau liquide, élément qui nous paraît indispensable à l'apparition de la vie. Donc à suivre dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Par contre, pour des missions humaines vers les planètes du système solaire, la voile solaire ne conviendra pas, ou alors il faudra qu'elle soit de dimensions gigantesques, vu les masses énormes qu'elle devrait tracter, pour emporter quelques hommes et toutes les ressources nécessaires à leur survie pendant quelques mois dans l'espace, hein, l'eau, l'oxygène, la nourriture, etc. Puis sur Mars, avec des abris, des véhicules et tous les équipements.
Alors toujours dans le cadre de l'actualité, grosse collision spatiale le 7 août dernier.
Alors, nous évoquons assez souvent ici des astéroïdes qui s'approchent plus ou moins de la Terre, comme le 15 juillet dernier où un rocher d'environ 100 mètres nous est passé à seulement 76 000 km, soit environ 1/5 de la distance Terre-Lune, ce qui paraît énorme à l'échelle humaine, mais fait assez peu à l'échelle du système solaire. Ce 7 août, à 6h07 précisément, c'est une autre planète qui a été percutée, la géante Jupiter. Et c'est un astronome amateur du Texas, Ethan Chappelle, qui a capturé par hasard le flash de quelques secondes produit dans son atmosphère alors qu'il prenait des images de la planète avec son petit télescope de seulement 200 mm de diamètre, c'est-à-dire le genre d'instrument qu'on a dans mon club ou à AG33 par exemple. Le fait que cet impact soit visible depuis la Terre, à environ 700 millions de kilomètres de distance, montre bien à quel point ces collisions sont violentes et dégagent une énergie considérable. On en avait déjà observé sur Jupiter en 1994, 2009 et 2010, mais on estime qu'elles y sont heureusement bien plus fréquentes sur cette planète géante que sur la Terre, car elle aspire, si je peux dire, bien plus fort vers elle les astéroïdes qui passent à proximité en raison de sa masse colossale. La collision historique restait celle de 1994, où les astronomes avaient prévu la chute des débris de la comète Shoemaker-Levy 9, que son passage trop près de la planète géante avait brisé en plusieurs morceaux 2 ans plus tôt. Alors qu'on ne savait pas si quelque chose serait visible, la plupart des astronomes estimant que l'impact d'un débris de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres serait insignifiant pour l'énorme Jupiter, tout le monde avait été surpris par la violence des chocs observés depuis la Terre avec des flashs impressionnants et des cicatrices, si on peut dire, persistantes dans l'atmosphère jovienne pendant plusieurs jours. Cela avait été une véritable révélation ayant conduit à revoir l'échelle des risques que comportent ces collisions pour une planète comme la Terre. Cela avait aussi donné lieu à une mode de ce thème, hein, des collisions interplanétaires, notamment au cinéma, avec la sortie quelques années plus tard, en 1998, d'Armageddon, avec une fois de plus Bruce Willis en sauveur de l'humanité, puis Deep Impact, avec Morgan Freeman en président noir des États-Unis, ce qui était bien sûr du domaine de la science-fiction à l'époque.
Allez, deuxième partie de votre chronique, quelques conseils pour l'observation du ciel et la pratique de l'astronomie en amateur.
Voilà, je ne voudrais pas que ce thème devienne un marronnier, hein, comme on dit, de la chronique à chaque rentrée, car je l'ai déjà abordé l'an dernier en septembre, hein, si les éditeurs s'en souviennent. Mais j'ai pensé qu'après peut-être des observations au télescope pendant les nuits des étoiles, ou tout simplement la vision d'un beau ciel noir étoilé pendant les vacances estivales à la mer, la montagne, ou tout simplement un coin de campagne éloigné de la pollution lumineuse, nos auditeurs sont peut-être tentés d'aller un peu plus loin dans leurs observations. D'autant qu'en cette période de rentrée scolaire, ça peut être l'occasion d'adhérer à un club d'astronomie dont le rythme est calqué sur le calendrier scolaire comme celui de la plupart des associations sportives ou culturelles. Je pense notamment aux parents dont un enfant commence à s'intéresser aux objets du ciel et je serai catégorique, il ne faut surtout pas leur acheter un instrument bas de gamme. Comme des petites lunettes en plastique qu'on trouve dans tous les catalogues de jouets ou les sites en ligne à l'occasion des fêtes de fin d'année et qui sont le meilleur moyen de dégoûter un enfant de l'astronomie tant ces équipements sont nuls. Leurs optiques et oculaires de mauvaise qualité donnent des images pourries, leur faible diamètre et courte focale ne permettent que des grossissements ridicules, inutilisables sur la plupart des objets comme les planètes par exemple, et souvent leur plus grand défaut c'est l'instabilité de leur monture, rendant toute observation presque impossible à cause des vibrations produites dès qu'on les touche, par exemple pour faire la mise au point. Il n'est pas rare qu'on n'arrive même pas à observer correctement la Lune avec des dispositifs aussi mauvais.
Alors vous conseillez de ne rien acheter pour observer le ciel, Michel ?
Alors si on veut absolument acheter un instrument d'observation à un enfant ou pour soi, on peut commencer plutôt par une bonne paire de jumelles, genre 8 x 50 ou 10 x 50, c'est-à-dire grossissant 8 ou 10 fois et doté de lentilles d'entrée de 50 mm de diamètre, ce qui est nécessaire en astronomie pour collecter la lumière des objets faibles. De telles jumelles permettent d'identifier à faible grossissement un grand nombre d'objets du ciel, comme les nébuleuses qui émaillent la Voie lactée, par exemple confortablement installées dans une chaise longue au début des nuits d'été, ou même de percevoir l'ellipse de notre voisine, la galaxie d'Andromède en automne, ou de repérer les principales formations lunaires. Et ce que je vous dis là n'est pas théorique, car pas plus tard que samedi soir, en attendant que mes collègues rangent leur matériel vers 1h du matin, j'ai parcouru le ciel avec de simples jumelles 10 x 50 et je me suis régalé à retrouver en tout petit certains objets qu'on avait observés au télescope juste avant et à profiter des grands champs stellaires d'une richesse incroyable de la Voie lactée, impossible à observer correctement dans un gros instrument, car le champ de vision est alors très réduit comme un peu un confetti dans le ciel. Les jumelles sont un bon moyen de commencer à apprendre le ciel car on ne peut pas pratiquer l'astronomie amateur en n'ayant pas un minimum de connaissances des constellations afin de pouvoir se repérer dans la voûte étoilée saison après saison. L'avantage des jumelles, c'est aussi que si l'intérêt pour le ciel retombe, et je pense que la plupart des parents ont l'expérience de la versatilité des enfants avec leurs passions brèves et successives, on pourra toujours les utiliser pour d'autres observations terrestres, les oiseaux, les paysages en vacances, les bateaux sur la mer par exemple. Les instruments astronomiques, eux, lunettes ou télescopes, inversent les images, ce qui n'a aucune importance pour les objets célestes, car il n'y a ni haut ni bas dans l'espace, mais gêne considérablement leur usage terrestre. C'est plutôt déroutant, par exemple, de voir des vaches brouter la tête en bas.
Mais si on veut mieux voir ces objets célestes, il faudra bien néanmoins acheter une lunette un jour.
Oui, alors si la passion pour le ciel est durable, il sera toujours temps d'investir plus tard dans une lunette ou un télescope. Sachant qu'il faudra y consacrer un budget conséquent si on veut un instrument de qualité, et surtout auprès d'un magasin spécialisé, comme par exemple la boutique Astronomie Espace Optique à Bordeaux, dont l'un des fondateurs, Joël Vallée, représentait AG33 lors de notre dernière chronique. Il faut savoir que les opticiens ordinaires ou photographes qui mettent quelques instruments astronomiques dans leur vitrine ne sont pas eux-mêmes des astronomes et ne connaissent pas assez cette activité particulière pour fournir de bons conseils aux novices. Le mieux serait de se familiariser avec les instruments dans un club d'astronomie. On saura alors plus précisément dans quel type de matériel investir, car si l'instrument idéal, sachant tout faire bien, existait, tous les astronomes amateurs auraient le même. Selon qu'on s'intéresse plutôt à la Lune et aux planètes du système solaire, petites mais très brillantes, ou à l'inverse aux objets lointains et faibles, comme les nébuleuses et les galaxies, ce ne sont pas les mêmes instruments que l'on choisira. Et d'autres critères peuvent entrer en ligne de compte, par exemple le projet de pouvoir photographier ces objets, ou le fait qu'on observe chez soi, ou qu'on souhaite déplacer l'instrument pour observer ailleurs, ce qui est obligatoire si on réside dans une zone urbaine à forte pollution lumineuse, car la qualité d'un ciel bien noir est le critère numéro un pour faire de bonnes observations aussi bien à l'œil nu qu'avec un instrument. Il sera donc bien plus facile de faire le bon choix quand on aura déjà pratiqué dans un club avec les instruments divers souvent disponibles. Cela permet aussi de voir quels sont les points clés de ces observations, comme le bon réglage de l'instrument et de sa monture, le choix des oculaires adaptés, ainsi que la pratique du pointage des objets dans le ciel à partir de leur position sur les cartes. Ils sont souvent si petits qu'un faible écart de visée ne montre rien du tout dans l'oculaire, à part un fond de ciel étoilé, car des étoiles, il y en a absolument partout. Le pointage des objets reste un des challenges de l'observation astronomique, sauf bien sûr si on s'équipe d'un instrument sophistiqué où le pointage est assuré automatiquement par un système électronique, ce qui ne résout rien du tout parce qu'il faut commencer par le régler correctement en se basant sur des étoiles, et cela ne dispense pas de connaître un minimum les objets visés pour savoir comment bien les regarder, avec quel oculaire, quel grossissement. Dans tous les cas, un minimum de connaissance du ciel est donc nécessaire et on l'acquiert plus vite dans un club au contact d'astronomes plus expérimentés que tout seul dans son coin perdu au milieu des notices et des cartes du ciel. Alors, il y a la grande question de se rapprocher d'un club d'astronomie, souvent pour commencer par observer comme un invité avant d'y adhérer. Ce ne sont pas les clubs qui manquent, car l'AFA, Association Française d'Astronomie, la fédération nationale de toutes ces petites associations locales, recense près de 600 clubs en France. Facile à trouver sur leur site où une carte est proposée dans la rubrique annuaire des structures de leur site web www.afastronomie.fr. Et on peut facilement filtrer par département pour restreindre les recherches. Près de Bordeaux, c'est bien sûr AG33, basé à Socats, JAL Astronomie à Martignas sur JAL, Abera à Bègles ou les Pléiades à Vert du côté de Libourne. Et je parle bien sûr que des clubs d'observateurs du ciel, car il existe d'autres associations comme la SAB, la Société Astronomique de Bordeaux, qui ont une approche plus scientifique de l'astronomie avec par exemple l'organisation de conférences. Il faut encourager les personnes intéressées à se rapprocher des clubs d'astronomie, car lors des animations publiques, il est courant de rencontrer des personnes qui ont chez eux un télescope ou une lunette et qui hésitent à rejoindre le club voisin, ce qui leur serait pourtant très profitable, car dans la plupart des cas, ils avouent ne pas savoir se servir correctement de leur instrument et n'avoir observé que bien peu de choses avec, souvent un peu la Lune, car c'est de loin la cible la plus facile à viser.
Alors pourquoi cette appréhension à rejoindre un club selon vous ?
Alors pour commencer, ce n'est pas un problème économique, car les cotisations de ces associations sont souvent assez modestes, et l'astronomie n'est pas une activité coûteuse à pratiquer dans un club, du moins tant qu'on ne décide pas d'investir dans son matériel personnel, et encore, quand je vois les prix de certains équipements sportifs, cela relativise celui des instruments optiques. Souvent, c'est plutôt un problème d'image, des idées fausses qu'on se fait sur ce qu'est un club d'astronomie. Quand je les interroge là-dessus, surtout ceux qui ont un instrument chez eux, je suis étonné de voir qu'ils croient que les astronomes amateurs dans les clubs sont, si je peux m'exprimer ainsi, des grosses têtes, dont le passe-temps consiste à faire de la science, des maths et notamment de la trigonométrie pour calculer la position des objets à pointer. C'est totalement faux. Les astronomes amateurs sont avant tout des observateurs de la nature. Je prends souvent cette image un peu caricaturale. Si on s'intéresse aux canards, on peut aller les observer sur un étang avec une paire de jumelles sans avoir besoin de tout savoir sur leur vie, leur anatomie, leur comportement, etc. En astronomie, c'est pareil. On peut admirer les objets du ciel sans avoir besoin de tout connaître de leur nature, de leur formation, de leur évolution. C'est une question de goût personnel. Certains veulent en savoir un peu plus pour mieux comprendre et apprécier ce qu'ils observent, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Ce qu'on apprend avant tout dans un club d'astronomie, ce sont les techniques d'observation. Comment se repérer dans le ciel, comment bien utiliser les instruments, comment exploiter les cartes, les éphémérides et les sites web pour préparer sa soirée. Et tout cela est bien plus facile en bénéficiant de l'expérience d'astronome confirmé plutôt que de vouloir tout apprendre par soi-même en solitaire. Il ne faut surtout pas faire le timide et renoncer à approcher un club sous prétexte qu'on n'y connaît rien. À chaque rentrée, des débutants rejoignent le club astro le plus proche et leur formation démarre à zéro, avec le plaisir que c'est surtout en pratiquant l'observation, à l'œil nu au télescope, qu'on apprend et qu'on progresse dans sa connaissance du ciel, dans sa pratique des instruments ou même de la photo. Je pense qu'il y a aussi une idée fausse dans le public concernant la pratique de l'astronomie, celle de l'astronome qui veille très tard tout seul dans le froid pour satisfaire sa soif de connaissance des mystères du cosmos. L'astronomie n'a rien d'un plaisir solitaire, même si, bien sûr, on peut de temps en temps sortir son télescope pour observer chez soi quand on en a un. La pratique en groupe est bien plus intéressante. Elle permet de comparer les instruments en regardant les mêmes objets au travers de différents systèmes optiques, ou à l'inverse, elle permet souvent d'observer beaucoup plus d'objets en une soirée, car les uns et les autres ne vont pas forcément pointer leurs instruments sur les mêmes cibles. Et bien sûr, cela permet de progresser plus vite en bénéficiant des trucs et astuces des autres, de leur connaissance d'objets différents, et comme dans toute activité collective, de ressentir le plaisir du partage et des relations humaines. Sur ce point, les clubs proposent souvent d'autres activités en groupe, comme des sorties vers des sites intéressants, par exemple des observatoires ou des planétariums, ou organisent des repas, car j'ai remarqué qu'il n'y a souvent pas loin de astronomie à gastronomie. Par exemple, AG33, qui organise chaque automne un dîner interclub pour permettre aux clubs astro de la région de se rencontrer afin de mieux se connaître. Et donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, si vous ressentez un attrait pour le ciel et un petit frisson pour l'observation des objets célestes, le plus urgent est de prendre contact avec le club astro le plus proche.
Troisième partie de votre chronique, le ciel du mois.
Alors, comme dans les dernières chroniques, je vais résumer cette partie en renvoyant plutôt les auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section « Astronomie » de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails. C'est toujours difficile de montrer des cartes du ciel à la radio. Tout le monde peut constater que la durée du jour diminue tout au long de l'été, et de plus en plus vite quand on approche de l'équinoxe d'automne, et donc la nuit survient de plus en plus tôt. Ces jours-ci, le soleil se couche vers 20h45 et la nuit survient vers 22h. Mais il faut encore attendre jusqu'à 22h30 pour un ciel bien noir. À la fin septembre, on aura gagné environ une heure. Le coucher sera à peu près vers 19h45, la nuit viendra vers 20h45 et le ciel bien noir va être 21h30. En début de nuit, le ciel de l'été est déjà bien haut, avec le triangle de l'été arrivant au sud et pas très loin de Jupiter, le scorpion avec son étoile orangée Antares, bien reconnaissable, appelée ainsi car elle ressemble à la planète Mars, Arès en grec. Et on trouve aussi le Sagittaire au sud, reconnaissable à un motif en forme de théière accompagné de la planète Saturne. Le triangle de l'été n'est pas une constellation, mais un repère formé des trois étoiles très brillantes, Altaïr, la plus basse, Vega, la plus brillante et la plus haute dans le ciel, et Deneb, la plus à l'est, ce qui permet de situer et dessiner leurs constellations respectives de l'Aigle, la Lyre et le Cygne. Dans un ciel bien noir de campagne, on peut voir la Voie lactée monter du Sagittaire jusqu'à Deneb. Côté ouest, il ne subsiste presque plus rien du ciel de printemps, à part le Bouvier et son étoile brillante Arcturus, et Hercule qui fait un peu la transition entre printemps et été. Alors que vers l'est se lève déjà la constellation typique du ciel de l'automne, Pégase, formant un motif carré prolongé d'Andromède, dans laquelle on peut déceler la galaxie la plus proche de nous, objet le plus lointain perceptible à l'œil nu et facile à observer aux jumelles. Fin septembre, en raison du raccourcissement des jours, la situation sera assez analogue, avec Pégase juste un peu plus haut dans le ciel et le triangle de l'été vraiment plein sud. Côté planète, vers le sud, on peut voir la brillante Jupiter, déjà en train de descendre vers l'ouest où elle se couche vers 1h en ce moment, mais ce sera dès 23h fin septembre. Il faut donc en profiter maintenant pour l'observer dans de bonnes conditions, en début de nuit, quand elle est encore assez haute. Je rappelle aux auditeurs qu'avec de simples jumelles, il est possible d'apercevoir jusqu'à 4 satellites formant comme un alignement de petites étoiles autour de la planète géante et dont la position varie en quelques dizaines de minutes, mais ça dans une lunette ou un télescope pour s'en rendre compte. Un peu plus à l'est, on peut aussi apercevoir Saturne qui reste dans le ciel jusqu'à 3h du matin en ce moment, mais seulement 1h fin septembre. Inutile de la regarder dans une paire de jumelles car on ne peut pas voir ses anneaux qui nécessitent un grossissement plus fort, par exemple avec un petit télescope. C'est donc l'occasion rêvée de l'observer dans les télescopes d'un club astro proche de chez vous. Il y aura plusieurs conjonctions de la Lune avec ses planètes, en commençant par jeudi prochain, le 5 septembre, où la Lune, pratiquement au premier quartier, sera proche de Jupiter, à environ la largeur de 2 doigts, bras tendus. Et le lendemain, la situation sera analogue, mais les deux astres ayant changé de position, la Lune à peine gibbeuse, plus à l'est, suivant Jupiter dans le ciel. Puis le dimanche 8, où plus grosse, elle sera 2 fois plus proche de Saturne, environ la largeur d'un doigt, bras tendu. Et enfin, un rendez-vous dans le calendrier, avec l'équinoxe d'automne, le lundi 23 septembre à 9h50, moment où le soleil passera juste sur l'équateur céleste, produisant théoriquement une durée du jour égale à celle de la nuit, ce que signifie le mot équinoxe, c'est-à-dire nuit égale. Mais en réalité, s'il y aura bien 12 heures entre le lever et le coucher du soleil, la nuit noire ne durera qu'environ 10 heures si on tient compte du crépuscule et de l'aube, période où le soleil est bien couché, mais le ciel encore ou déjà clair. Autre date dans le calendrier, avec comme chaque année fin octobre, les horaires de nuit qui changeront brutalement avec le retour à l'heure d'hiver. Et nous évoquerons sans doute cette bascule lors de notre prochaine chronique, en principe le mercredi 25 septembre.
Voilà, on prend rendez-vous, bien sûr, pour la prochaine chronique. Alors, une fois de plus, merci Michel pour tout ce travail. Voilà, certes, c'est de la passion, l'implication, mais voilà, on est toujours ravis de cette restitution. Alors, juste avant de se quitter, on va redire qu'on peut retrouver toutes vos chroniques sur le site constellationsetgalaxies.org et un site qui donne beaucoup d'infos.
Oui, alors
sur les infos sur les planétariums, etc. Bien sûr.
Alors les activités de l'association, donc avec un onglet Planétarium qui explique tout ce qu'il faut savoir pour faire, par exemple, venir le Planétarium dans une école, un collège, un lycée. La partie atelier dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, et une partie qui s'appelle astronomie, dans laquelle on trouve entre autres toutes les chroniques aux deux radios. Depuis, ça doit faire plus de 4 ans maintenant. Et aussi la fameuse rubrique « Le ciel du mois » où on va trouver la carte, ce qui sera du ciel au milieu de mois, le 15 septembre, ce qui sera quand même plus clair que les explications que je peux donner à l'antenne, et on retrouvera tout ce que j'ai donné à propos des constellations, des planètes qu'on voit dans le ciel, et des quelques événements, disons, significatifs du mois, comme les conjonctions, par exemple.
Voilà, on remettra quelques infos sur le Facebook de la radio et via constellationsetgalaxies.org. Voilà, on peut à la fois retrouver toutes vos chroniques et de belles informations sur l'actu, etc. Donc rendez-vous, si tout va bien, le 25 septembre.
Normalement, c'est prévu comme ça. Ça a failli changer parce que j'envisage un petit voyage à l'étranger, mais ce ne sera pas à cette date-là finalement.
Il faut nous tenir au courant où on vient avec vous en voyage.
Voilà.
En tout cas, un grand merci à vous, Michel, et on se retrouve, voilà, on reconfirmera, voilà, pour avoir toujours cette chronique le dernier mercredi, et en ce mois de septembre, ce sera le 25 septembre. Allez, encore un grand merci encore à vous, Michel. Au mois prochain.